parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfant. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfant. Elle enfanta un fils qui doit battre toutes les nations avec une verge de femme. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son père. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable, le Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mort. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le feu. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le Seigneur bénisse sa parole.
L'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse au moment où la vraie persécution va s'éclater sur l'Église. Pas longtemps après sa mort, l'empereur de Rome a terriblement persécuté le peuple de Dieu. Et depuis 2000 ans, il y a encore à l'avenir, le peuple de Dieu a toujours été persécuté, il sera toujours persécuté. Une des raisons que l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, une des raisons, c'est pour aider au peuple de Dieu de comprendre qu'il se passe des choses qu'il ne savent pas. Des fois, on est dans des circonstances. On se demande pourquoi. Il lui manque des informations. Et si l'Apocalypse ne nous donne pas toutes les informations pour nous satisfaire de curiosité, l'Apocalypse nous donne quand même certaines informations pour nous encourager dans notre marche chrétienne. Dans le chapitre 12, nous avons l'introduction aux sept coupes qui seront versées dans le chapitre 16. Terrible période de persécution et de terrible problèmes sur la face de la terre. Et aussi, c'est une esquisse. Ça nous donne un peu l'espèce des forces qui sont en arrière des événements de la race humaine. Et nous voyons ici l'arrière-plan de la rébellion de Satan que nous avons vu la semaine passée et les effets de cette rébellion vers l'histoire. Maintenant, ce matin, il y a trois choses que nous allons voir. Nous allons voir d'abord la guerre sur le ciel, dans le ciel. Et je me rends compte que j'ai dit dans le ciel et dans les yeux, mais c'est dans le ciel. la guerre sur la terre, et nous allons voir la conclusion. Et nous allons nous poser un certain nombre de questions, et on va essayer de comprendre ce passage qui est, on est de portée difficile, et comme Dieu, je n'ai pas toutes les réponses ce matin, et certaines versets ne comprennent pas nécessairement à 100%, mais nous pouvons comprendre l'ensemble de l'enseignement ici. Première question. Qui est Michaël? Parce que nous avons lu au verset 12, verset 7 du chapitre 2, que Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. La semaine passée, j'ai fait une erreur, vous allez m'excuser. J'ai dit qu'il y avait trois personnages. Oh, il y avait la femme, il y avait le dragon, il y avait l'homme en mer. Mais il y en a un quatrième ici, c'est Michaël. C'est qui cette Michaël? Mais des fois, son nom est écrit Michel, et des fois, c'est écrit Michaël. Je pense que l'une vient en français à travers les bleus, et l'autre vient à travers les grecs et les latins. C'est pas important, c'est la même personne, Michaël ou Michel. Et cette semaine, j'étais justement à Notre-Dame-du-Cap pour montrer quelques-unes, mais j'ai écrit un remerciement à Michaël Saint-Archange, écrit sur le mur quelque part. Alors, il est connu dans notre société, n'est-ce pas? Alors, qui est cette Michaël? D'abord, il faut comprendre que, en arrière de chaque nation païenne, il y a une puissance démoniaque. Ça, c'est indiqué très clairement dans Daniel chapitre 10, où Daniel apprend qu'en arrière du royaume de la Perse, il y a une puissance démoniaque qui résiste à la volonté de Dieu. Il faut comprendre que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des puissances démoniaques qui sont en arrière de certaines nations. On est dans l'Europe. Et je pense que je vais se lire deux fois parce que c'est bien important, c'est pas pour ça. Allez au fichier numéro 8, s'il vous plaît. Et en arrière d'Israël, il y a une autre sorte de puissance. En arrière de la nation d'Israël, qui est le peuple de Dieu, il y a une puissante ange de lumière qui s'appelle Michel. Dans Daniel chapitre 10, c'est le verset 13, nous lisons que le chef du royaume de Perse a résisté 21 jours. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Nous avons là une guerre politique, mais en arrière de cette guerre politique-là, il y a le roi des l'ange démoniaque qui est en arrière le trône de le roi des Perses. Et il y a Michaël qui le prêtre du peuple de Dieu qui lui résiste. Daniel chapitre 10 et le verset 21. Personne ne m'a aidé, dit l'ange de Daniel, quand je suis là, excepté Michaël, propre chef. Et ça, c'est un mot intéressant. Quand les Écritures ici disent Michaël, propre chef, c'est qui va? Les pronoms ont toujours un antécédent, n'est-ce pas? Le pronom réfère à un nom quelque part. Et votre chef, c'est les Juifs. Michaël est leur chef. Daniel chapitre 12, et le verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ton peuple, c'est le peuple de Daniel, c'est Israël, encore une fois. Donc, encore une fois ici, nous voyons que Michaël est le chef du peuple de Dieu, celui qui défend, celui qui est la puissance angélique en arrière du peuple de Dieu, des Juifs. Intéressant aussi que, et je vais vous poser une question, il y a combien d'archanges? Combien d'archanges? Si vous êtes une bonne catholique, vous allez dire 7, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens vont dire deux. C'est qui les deux? Les deux archanges selon les bons chrétiens. Gabriel et Michaël. Mais les Écritures ne nous disent pas que Gabriel est archange. Il est peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas expert, je ne voulais pas non plus expert dans les différents grades, dans les anges. Mais les Écritures nous disent clairement que Michaël est le seul ange qui est appelé archange. Jude 9 nous dit ceci. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement. étant injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Encore une fois, nous avons Michaël qui défend le peuple des Juifs. Il défend le corps de Moïse contre le diable. Je ne sais pas. Je ne veux pas me livrer de spéculation. Une chose certaine. Michaël ici. Remarquez ici que Michaël est un peu. Il n'est pas en guerre avec le diable. Ce moment-là n'est pas encore arrivé. Michaël dit simplement à Satan que l'éternel que le Seigneur te réprime te reprend. Il ne fait pas de son corps de chef. Un seul autre passage qui parle encore dans les Écritures, et ce passage-là nous parle du retour du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et si j'ai raison, et que Michel est le seul archange, et c'est de la voix de Michel que arrivera l'enlèvement lorsque nous allons ressusciter ensemble dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Le texte qui commence à la voix d'un archange et l'article est défini des trois en grec. Il ne faut pas tirer tout le monde de cela. Deuxième question qu'on peut se poser, quelle sorte de guerre? Quelle sorte de guerre que c'est? On voit la télévision des guerres avec des bâtons, puis des armes, des chars de saut. Quelle sorte d'air de guerre qu'il y aura dans le ciel entre Michaël et le diable? Et je dis simplement, ne nous perdons pas dans la spéculation, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. C'est une guerre spirituelle. Il y en a qui s'amusent avec cela, puis je vous dis que quand on est ignorant, on est ignorant. Quand la Bible nous dit d'un point tous les détails, la Bible nous donne pas tous les détails. Probablement quand tu passes par la porte de savoir, et peut-être bien parce qu'on ne pourrait pas comprendre. Quand est-ce cette guerre? Et là, ça devient une question intéressante et difficile. Parce qu'on dit au verset 7 qu'il y a une guerre dans le ciel. Et Michel et ses sept anges combattus contre le dragon, et le dragon et ses anges combattus, qui les précipitaient sur la terre. C'est arrivé quand? Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est futur? C'est quoi ça? C'est quand? Et ça, mes chers amis, c'est une bonne question. Si vous m'aviez écouté sur ces passages, vous comprenez qu'il y a différents points de vue sur le livre de l'Apocalypse. Il y a par exemple un point de vue qui s'appelle le préteriste. Pour beaucoup de vous, c'est un mot que vous ne connaissez pas. Ça devient assez populaire au sud des États-Unis, en certains milieux. Un préteriste dit que tout cela est arrivé avant l'année 70. Que l'Apocalypse est que Matthieu 24, 25, ont été complètement accomplis lorsque Rome, les armées de Rome, ont détruit le Temple et Jérusalem. Vous en avez dit ça avant Jésus-Christ, voilà 1905. Ça, c'est le point de vue préteriste. Il y a le point de vue historiste qui dit que toutes ces choses-là sont arrivées dans l'histoire de l'Église et que ce n'est pas futur. Moi, je suis futuriste, ça veut dire que je crois que beaucoup des choses dans ce passage-là pas arriver dans le futur. Effectivement, ici, dans cette grande panorama, dans cette vision d'ensemble, nous avons, oui, des choses qui se sont arrivées, qui se sont répétées à travers l'histoire de l'Église et à travers l'histoire d'Israël, mais que, vraiment, ce que nous avons ici va arriver dans son dénouement total à l'avenir. Conséquence à cette guerre, je crois que c'est pendant la tribulation. Je vais vous mentionner quelque chose qu'on lit souvent de ce temps-là. Et c'est intéressant de savoir que la spéculation. Et j'aimerais ça comme peuple de Dieu qu'on exerce le discernement. Souvenez-vous quand on a pas Paul parler à l'église de Corinthe concernant toutes ces questions de parler en marbre, une sorte de don exotique ou spectaculaire. Et le pauvre Paul leur dit qu'ils soient des hommes et des femmes exercés et qu'ils exercent le discernement. Vous comprenez tout ça? Et dans ces questions de prophétie, il faut bien qu'on exerce le discernement. Donc, certaines personnes disent que ce qui déclenche la guerre dans le ciel, au chapitre 7, c'est l'enlèvement. Et lorsque lorsque Satan est le prince de la puissance des airs, et vu qu'il contrôle cette région de l'univers, lorsque les saints montent au ciel, lorsque l'archange Michel va prier, Satan combat cela, et c'est à ce moment-là que Michael, qui a déclenché l'enlèvement avec sa cri, va déclencher une guerre avec Satan. Peut-être. Il y a rien qui pousse dans les écritures. Et je pense que ça me manque quelque chose. Vous savez que je suis futuriste, mais parfois j'ai honte un peu de cette perception de futuriste qui enseigne de par exagération. Vous comprenez? Nous, ensemble, il y a plus de savoir. Peut-être, pas plus que ça. Maintenant, il semble que la chute et l'expulsion de Satan se passe et s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, lorsqu'il a péché, Satan a été chassé de la présence de Dieu, qui est le troisième ciel. Hein? Le troisième ciel, la présence de Dieu. Peut-être pas en lieu physique, mais certainement dans où Dieu réside. Satan, dans un sens, est chassé de la vie de demeure. Mais il a encore présence, il a encore accès à la présence de Dieu. Voir Job, voir l'Apocalypse 12, chapitre 12, le verset 10, où nous lisons. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Alors, il a encore accès devant Dieu, Satan. Il a encore accès dans cette la présence de Dieu. Et ici, dans ce passage, ici, il semble qu'il est jeté sur la terre. Il n'a plus accès dans la présence de Dieu. C'est le sens du verset. Le verset 10, parce qu'il faut le comprendre dans le sens comme cela. Il n'a plus accès dans la présence de Dieu, les accusés. Il ne peut plus faire des troubles au ciel. Il ne peut plus exercer son influence dans les lieux spirituels. Il est projeté sur la terre. Et plus tard, dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 3, il sera chassé de la terre et jeté dans l'abîme. Et plus tard, dans l'Apocalypse 20, 10, chapitre 20, le verset 10, il sera jeté dans l'âme du feu. Alors, le Satan, là, c'est tout. Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est abaissé lui-même, c'est quoi? Souverainement élevé. N'est-ce pas? Satan, il a dit, je serai comme le très haut. Hein? Je montrerai. Attention à l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous tout cela? Moi, j'ai eu peur ce matin que ce soit un passage tellement terrible. On parle ici avec rien pour notre âme. Mes chers amis, les accusations du diable finiront un jour. Ils finiront un jour. Préoccupés par le nombre de chrétiens qui ont des consciences fragiles, qui sont toujours en train de s'accuser, de se poser des questions, être malheureux dans leur vie parce que, au fond, ils ont des consciences troublées. Des fois, je suis comme ça aussi. Des fois, il y a des croix pour être accusé aussi. Romains 8, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'œuvre de Dieu, pour nous, en nous, il dit, qui accusera Dieu? Une partie de ces accusations, c'est lui qui sont mal faites, mais une partie de ça, que c'est le travail du diable. Et si vous avez une conscience troublée, puis des fois vous êtes un peu pas sûr de vous-même et tout cela. Je ne parle pas de quelqu'un qui vit dans le péché, puis sa conscience le trouble, c'est une bonne chose. Hein? Je parle de celui qui s'accuse des fois pour pas grand-chose. J'ai des bonnes nouvelles pour eux, j'ai des bonnes nouvelles pour moi, j'ai des bonnes nouvelles pour nous tous. C'est que ce jour va finir. Nos consciences finiront pour être en paix. Parce qu'un jour, les accusations du diable seront terminées. Pensons maintenant à cette guerre sur la terre. Satan n'a plus accès au ciel ici. Il ne peut plus nous attaquer dans la présence de Dieu. Ici, dans ce passage. Moi, je crois que c'est à l'avenir. Et il ne peut plus attaquer le Fils incarné, parce que tout le temps que Jésus était sur la terre, depuis sa naissance, quand Hérode a essayé de le tuer, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que sa crucifixion, Satan l'a attaqué, le Fils de Dieu incarné. Il était homme. Il avait mis à côté le libre exercice de ses attributs et il était, et j'utilise le mot entre au moins 27 de parenthèse, là, hein, il était vulnérable dans un sens qui n'est pas ni avant ni après son incarnation. Et Satan l'a tenté, l'a attaqué, il a tout fait contre lui. Et là, dans ce passage, nous lisons au verset 5, la fin du verset, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus n'est plus là, il peut plus attaquer Jésus. Il n'est plus au ciel, il ne peut plus faire des trucs dans les lieux spirituels. Il est sur la terre, puis là, il concentre ses efforts contre le peuple de Dieu sur la terre. Et comme nous avons vu la semaine passée, notre compréhension de sa femme, c'est que c'est surtout d'Israël dont il est question. Je pense que je répétais ça aussi. Regarde bien, juste pour vous dire qu'au chapitre 12, si vous voulez le comprendre, comprenez ceci. Que il y a une explication ici pour tout ce que le peuple de Dieu vit comme persécution, et particulièrement les Juifs, et particulièrement à cette époque, pendant la Grande Tribulation. On peut lire, par exemple, péché numéro 20, c'est très bien. Et la femme s'ennuie dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On reviendra à ce verset-là, mais si la femme s'enfuit, si Israël s'enfuit, c'est une cause des persécutions. Verset 12, l'Apocalypse nous dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a plus de temps. » Condamné, il sait qu'est-ce qu'il attend. Il est intelligent, lui aussi peut lire l'Apocalypse. Lui aussi, il sait qu'est-ce qu'il attend. Verset 6, c'est la femme sort. Verset 17, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Je pense que je n'ai pas la bonne version, j'ai corrigé ça. Excusez-moi. Okay. Alors, c'est vraiment le thème ici, c'est la persécution. Mais donc, Satan a toujours persécuté le peuple de Dieu et particulièrement les Juifs. Écoute bien, lisez l'Ancien Testament. Les famines en Israël, du temps d'Abraham et du temps de Jacob. Les enfants mâles en Égypte qui sont tués. Amalek. Tu sais, le peuple de Dieu arrive dans le désert, ils sont là juste quelques jours, et il y a une tribu féroce qui les attaque pour les tuer. Pourquoi? Babylone, erreur de les enfants, Rome et la destruction du temple. Ça, c'est dans la Bible. Après, regardez dans l'histoire un peu plus moderne. 1000 ans après Jésus-Christ, voilà 1000 ans, effectivement, l'Angleterre a le pouvoir d'être la première nation qui a chassé les Juifs. Le roi Canute, grand roi de l'Angleterre, un des premiers rois sur toute l'Angleterre, a banni les Juifs de l'Angleterre. Il n'y en a pas resté un. Voilà 1000 ans. Le roi Édouard Ier a fait la même chose en 1290. La France et l'Allemagne ont accusé les Juifs d'avoir causé la peste noire. Il y avait tous les Juifs dans le royaume. Vous savez, c'est quoi la peste noire? Cette maladie qui était propagée sur des puces, sur des rats, et qui a tué, certains disent, la moitié de la population des rats avec une maladie terrible, horrible. Mais les Allemands et les Français ont dit, ça, c'est des Juifs qui ont fait cela. Hein? Bien logique de leur faire. Hein? Et ils ont chassé les Juifs de l'Allemagne et de la France. Pendant la première croisade, nous autres, on regarde la croisade, les chrétiens qui savent délivrer Jérusalem des musulmans. Ouais. Mais en route, pour la première croisade, les Européens ont massacré les Juifs, 1095 environ. Sur tout le chemin, dans l'Angleterre, jusqu'en passant par la France, l'Italie, la Grèce, toute cette région-là, ils ont massacré tous les Juifs qui pouvaient trouver, ils ont brûlé leur maison, ils ont coupé la gorge. Intéressant que l'année même que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, pour le compte de le roi et le règne Philippe et Isabelle d'Espagne. Et Philippe et Isabelle ont banni les Juifs de l'Espagne. Quelle année que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Ah, il y a une bonne histoire. Mais cette année-là, tous les Juifs furent chassés de l'Espagne. En France, il y en a bien plus récent, 1894, l'affaire Alfred Dreyfus, qui était un officier dans l'armée française, qui était faussement accusé de trahison, mais c'était causé certainement que, parce que quelques-uns étaient jaloux de son succès, de son grade, et il était vraiment maltraité. C'était un moment où les Juifs ont été maltraités dans la France. Ça a été découvert plus tard que ce n'était pas vrai. En Russie, à même époque, en 1882, le tsar, les Juifs ont été accusés d'avoir été en arrière d'un complot pour tuer des tsars et des persécutions vraiment atroces. Et sous Staline, ça c'est plus récent, les années 20, 30 et 40 en Russie, 3 millions de Juifs tués en Russie. Est-ce que vous saviez ça? Si on sait que les Allemands ont tué 6 millions, mais pas longtemps avant, les Russes en ont tué 3 millions de Russes. Et l'Holocauste, la solution finale des nazis. En passant, il n'y a pas de spéculation. Et lisez les journaux, regardez les nouvelles TV. Qu'est-ce qui se passe en Géorgie? Regardez votre carte. Certains vont dire que c'est une affaire d'huile, pétrole, peut-être bien. Et savez-vous que si l'armée de la Russie veut descendre au Moyen-Orient, il va passer par quel pays? Mais ce n'est pas terminé, chers amis, toutes ces persécutions. Jérémie 37 nous dit ceci. Jérémie chapitre 30, verset 7. Malheur que ce jour est grand. Il n'y en a eu point d'assemblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Ils en seront délivrés. Jacob parle toujours d'Israël. Une grande journée, une journée d'angoisse, il n'y a point eu de semblable. Matthieu 24, 21, le Seigneur regarde vers l'avenir et dit, car alors les détresses seront si grandes qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et ceux qui veulent dire que ça c'est la destruction de Jérusalem en 70, je veux simplement vous dire que ce que les Babyloniens ont fait 586 avant Jésus-Christ, c'est bien pire que ce que les Romains ont fait en 70. Ici, on ne fait pas référence à la destruction de Jérusalem par les Romains et d'autres choses plus tard. Chez 28. Mais Dieu protégera ses enfants. À deux reprises dans ce passage, nous avons une période de temps. Verset 6. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant combien de temps? 1260 jours. Nous avons déjà vu ce chiffre-là. Et au verset 14, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et une moitié de temps. Je pense qu'on peut comprendre ça. Un temps, c'est une année. Deux temps, c'est quoi? C'est deux ans. Le moitié de temps, c'est une demi. Alors, un plus deux plus une demi, ça fait combien? Un demi. Alors, cette période semble durer dans différentes écritures 42 mois. Et 42 mois, c'est 12 mois. Pour 3 et demi, ça fait 42. Okay? Ou 1260 jours. Mais 360 jours, qui était l'année des Juifs, multiplié par 3 et demi, ça donne 1260 jours, et 42, excusez, 3 ans et demi, mais 7 divisé par 2, ça fait 3 ans et demi. Donc, ça semble être une période de 3 ans et demi, et c'est la grande tribulation, la dernière moitié de la période de la tribulation. La compréhension ici, j'ai passé énormément de temps depuis un mois, deux mois probablement, à lire tout ce que je pouvais trouver sur l'Apocalypse. Ceux qui veulent que ce soit déjà arrivé dans l'histoire sont mal pris avec ce chiffre. Il y en a qui disent que c'est 1260 ans. Oui, mais ça commence 4 et ça finit 4. C'était peut-être correct dans le temps de Luther de dire ça, mais de Calvin de dire ça. Il calculait le commencement du premier grand pape, puis jusqu'à leur époque, il disait, mais 1500 moins le bord. Faisait des calculs. OK. Et là, le 260, honnêtement, là, il passe sous silence tout le temps. Surtout quand les filles voient le 200 ans qui était historiste, ils faisaient des calculs sophistiqués. Aujourd'hui, ils sont un peu jeunes de le faire. C'est une des raisons que j'ai futuristement identifié ces 1860 ans. La jubilation va durer 7 ans. La première fois aux Alibis, ça va plutôt calme. Et les dernières fois aux Alibis, ça déclenche terriblement. Vous savez que Dieu protégera ses enfants. Dieu a protégé ses enfants dans l'Égypte pendant 400 ans. C'est vrai qu'ils ont été persécutés, mais Dieu les a quand même protégés. Dieu a protégé ses enfants dans le désert pendant 40 ans. Il y a un parallèle intéressant dans l'histoire, dans la période de Simon Maccabée. Simon, Judas, c'est leur frère. Le premier des Maccabées a délivré Jérusalem, a tué des soldats d'Antioche Épiphane, le Syrienne, qui avait hérité de l'empire d'Alexandre le Grec dans cette région-là. Et après qu'elle avait délivré Jérusalem, il s'est enfui dans le désert, et cette période a duré environ 3 années. C'est intéressant. Et Dieu protégera ses enfants pendant la destruction de Jérusalem, c'est intéressant. Nous avons lu ce passage dans Matthieu. Donc, nous allons lire tantôt. Il y a un passage dans Matthieu où Jésus dit que quand tu vois arriver une certaine chose, fouillez dans le désert. Et quand les Romains sont venus pour attaquer Jérusalem, dans Jérusalem, il y avait des Juifs, il y avait des Chrétiens. Et à cette époque-là, les Juifs considéraient les Chrétiens non pas comme une autre religion, mais comme des Juifs qui avaient apostasié. Vous comprenez ça? C'était encore des Juifs quelconques. Est arrivé l'Empire, l'armée de Rome, et les Chrétiens ont lu ce qu'il y avait dans Matthieu. Ils y ont cru parce que c'est le maître Jésus qui l'avait pris. Et énormément de chrétiens se sont sauvés de Jérusalem avant sa destruction en 70. Ils sont allés vers Petra dans le désert. Ils sont allés là se cacher. Ils ont été préservés de la chute. Et les Juifs, historiquement, ne sont vraiment pas ça. Pour eux, il aurait fallu que les chrétiens, qui étaient très nombreux à Jérusalem, restent pour nous aider à défendre la ville. Ils se sont sauvés. Et ils ont toujours détesté. Le verset en question, c'est Matthieu 24, 15, et on l'a devant nous maintenant. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en Luc 5, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront dans Judée fuient dans les montagnes, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de parler depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Regardez bien ces paroles du Seigneur. Et il n'y en aura jamais. Si ce verset-là est accompli, hein? J'avais un prof à l'école de Bic qui disait, mettez votre chapeau pour vous aider à penser. Alors, si vous avez le chapeau qui vous aide à penser, mettez-le. Okay? Si cette prophétie de Jésus dans Matthieu 24, ces instructions de Jésus ont été accomplies en 70, pourquoi qu'il se dirait, il n'y en aura jamais? Des paroles. Parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a le fait de grande tribulation. Alors peut-être dans ce sens, c'est un accomplissement partiel. Peut-être bien avant goût. Les chrétiens se sont sauvés de cela. Mais il y a encore quelque chose qui est pire à l'avenir. Maintenant, résistons à la spéculation encore une fois. Parce que le passage nous dit que au verset 14. Et les 12 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son adieu. Pour ceux qui sont frais profonds, mais frais calés, comme les étudiants, qui ont beaucoup étudié, nous disent que mais l'aigle, c'est le symbole des États-Unis. Et les grandes ailes, c'est des Boeing 747. Et les États-Unis vont envoyer 747 pour sauver les Juifs. Et encore une fois, les chers amis, on se fait rire. Okay? D'ailleurs, je ne suis pas sûr que 747 doit aider les Juifs pour atterrir dans le désert, là, ça fait du sens. Avez-vous déjà atterri sur 747? Ça nous suffit d'avoir une bonne piste d'atterrissage. D'autres disent que c'est la forteresse de Petra, qui était la demeure des édomites. Les édomites ont commencé vers l'est du lac de la lac Porte. Et avec la persécution des Arabes et d'autres, ils ont changé de ville. Ils sont allés vers l'est de la mer de la mer Morte, au sud de Jérusalem. Ils ont établi une forteresse qui s'appelle Petra, qui est très fortifiée. On doit passer par un passage entre les roches très haut et seulement une personne peut passer à la fois. Il peut se cacher là, peut-être, on ne sait pas. Moi, je lis partout dans ce testament, sans aller dans trop de détails. Je pense que c'est plutôt que dans les jours d'année qu'il y a des questions. Non, c'est pas, faisons pas de spéculation. Le passage ici nous dit que pendant ces trois années, il y a un reste d'Israël que Dieu va préserver. Parce qu'on nous dit, au verset 6, afin d'y être nourri pendant 1260 jours, et au verset 14, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie d'un temps, des temps et de moitié du temps, loin de la face du serpent. Et j'aime simplement vous dire que, parler à l'intéressant dans l'Ancien Testament, qu'il y a un homme qui a été nourri dans le désert pendant trois années. C'est qui ça? Élie. Et Dieu a nourri son peuple 40 ans dans le désert. Et tu es capable de nourrir son peuple encore pendant trois années? J'ai fait le tour du passage. On m'a posé une question, puis je vais être bien honnête ici. On nous dit quelque part ici que Dieu envoie, que Satan envoie un fleuve pour les submerger. Qu'est-ce que c'est? Verset 15, merci beaucoup. Et de sa guerre, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Non, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je sais que l'eau a souvent été un agent destructeur. Dans l'histoire de la destruction de Pharaon, parce qu'au verset 16, on nous dit que la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, le dragon est lancé de sa gueule. En quelle mesure on fait référence ici à la traversée de mer Rouge, je ne sais pas. Je ne me livre pas à la spéculation, mais d'assez honnête pour Dieu, je ne sais pas, je sais. Il y en a qui savent, je ne suis pas sûr que ça. Tu comprends? Je vais faire une conclusion ici. Je crains deux extrêmes d'interprétation ici. Les prêteristes, c'est les personnes qui pensent que ces passages en tous étaient accomplis en 70 après Jésus-Christ. Moi, je crois qu'ils ont tort. Mais certains de nous qui sommes prêts de ce passage, qui croient que on est des futuristes, qu'on croit que c'est tout le futur, on pense peut-être qu'il n'y aura pas de persécution du peuple de Dieu et que tout est pour l'avenir ici. OK? Moi, je crains ça. Je demande si ça n'est pas rendu mou un peu. Ça n'est pas rendu un peu. Moi, j'ai une petite fille qui a 6 ans, que j'aime de tout mon cœur. J'ai une autre petite fille qui a 2 ans. La fille qui a 2 ans, elle tombe à terre et elle gratte le genou, puis c'est un plein ouvert, et ça saigne, puis elle se lève, puis elle fait un grand sourire, puis elle continue à pleurer. Et l'autre qui a 6 ans, elle peut pleurer pendant 45 minutes. L'autre jour, là, il y a eu une petite bouffe sur l'orteil, là, c'était presque un an. Mais je ne sais pas comment parler spirituellement. Vous savez que l'Église a rapidement grandi. Et vers l'année 110-115, lorsque la persécution est arrivée, les églises se sont vidées. Et des personnes qui se disaient peuple de Dieu et enfants du Seigneur, là, lorsqu'ils ont eu le choix, adorer César comme Dieu, ou mourir, être livré pour manger par le lion, ou pire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, on a jamais été chrétiens, on n'est pas des chrétiens. Plus que la moitié des membres, dans le sens large, de l'Église, après le deuxième siècle, 110, 120, 130, se sont répandus. Je demande si la semaine prochaine, la persécution éclatée ici dans le monde, Combien de jours moi vous partirez pour l'intérieur de vous comprenez là? Combien d'irez dans le livre? Et combien sera prêt à donner le livre de Satan? Regarde le verset 11. Ils ont vaincu à cause que les anges de Michaël et Michaël ont été tellement forts. C'est ça? Parce que Satan avait entraîné le tiers des anges, mais Michaël avait les deux tiers de lui. C'est remarqué? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à présent. Et nous? C'est nous que ça part? Si nous avons raison que ces événements se passent là en seulement 7 ans, il n'est pas possible que ça ne commencera pas un peu avant. Regarde bien verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu comme témoignage de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour Christ? Est-ce que nous préparons nos enfants pour cela? Est-ce que nous prions pour ceux qui sont persécutés pour leur corps aujourd'hui? Je suis dépêché parce que je dis au milieu des choses que j'ai reçues pendant 2 semaines environ. Ce n'est pas des anciennes nouvelles, c'est les Indes. Priez pour l'Inde. Le report des Indes depuis la dernière semaine d'août, troisième semaine d'août, nous parle d'une augmentation dramatique dans la violence contre les chrétiens, surtout de la part des Indes radicales. Plus de 50 000 chrétiens ont dû fuir leur maison pour se cacher dans la jungle, les forêts, pour s'échapper à la violence. La plupart ont perdu leur maison, mais tout ce qu'ils possèdent. Le gouvernement n'a rien fait pour arrêter cela. J'ai reçu, c'est mon ami Philippe Gentil qui a écrit cela, j'ai reçu l'email de lui là-bas. Hier, on a demandé à notre église qui s'appelle Pay, n'a pas son nom, qui vient de lire ça. Il nous dit que les hindous fanatiques sont venus à leur maison. Ils nous ont demandé de tous devenir des hindous. Lorsqu'on a refusé, ils ont commencé à menacer la famille. Alors son frère a dit, nous allons adorer le Seigneur Jésus. Les hindous ont dit, nous allons vous tuer. Vous n'aviez pas peur de tuer? Il a dit, je suis prêt à mourir pour Jésus. Ils l'ont coupé en 3 morceaux. Ils l'ont tué sa tante paternelle. Ils ont brûlé toute la maison. Ils ont jeté sur le roof. J'ai ici une liste de 46 événements qui sont venus dans les 7 semaines. Le bâtiment de l'église a reçu une bombe. On a détruit les maisons des 30 chrétiens qui assistaient à cette église-là. Le pasteur de l'église, Judas Tigal, a été tué. Tous les chrétiens, 180 maisons de chrétiens dans le village ont été brûlées. Les chrétiens dans le nord de Jambes, sans nourriture et sans eau. Les églises dans tout le comté ont été détruites, et toutes les maisons ont été brûlées, et 4 croyants tués à Dangliga. L'église à Alif Nayak, avec 12 maisons en Rani Panda, brûlé, le pasteur tué. Les maisons en Harry Panda, des bombes de pétrole, 10 à 12 chrétiens tués par l'émeute. Une auberge pour les filles qui avaient 70 étudiants a attaqué dans 1000 personnes et le plus les ont laissé faire. Les hindous fondamentalistes qui vont de village en village pour détruire les églises, ils brûlent des maisons, ils attaquent tous les chrétiens. On est allé chercher des milliers d'extrémistes d'autres régions pour aider. Leur agenda, c'est de complètement effacer les chrétiens. Des chrétiens et des chrétiens des Indes à partir de ça. Puis nous. Je ne sais pas si ça vous a plu. Seriez-vous prêts à couper en 3 avant la famille? There's a guy, etc. La persécution a toujours purifié l'Église, il a toujours fait une Église portée. Je vous ai occupé dans l'histoire. Je demande si l'Église porte aujourd'hui. Je le demande. Il y a des choses qui. Et je pose des questions. Ville qui est obligée de plaider avec tout le monde. T'as les 300 personnes ici. Il y avait du monde dans un cœur de chat. On aime ça dormir le dimanche de matin. Nous aussi. Mais je vais vivre au cœur de chat, mais on ne va pas dormir. Quand on se fait un gain de Dieu, il ne manque pas 7 propres pour le cœur de dimanche. C'est très bien. Quel plus grand devoir que nous avons comme église locale de bien enseigner nos enfants le cœur de dimanche. Quand ils sont rendus, je ne sais pas quelle date, le 20 septembre, il en manque encore 7 propres pour le cœur de dimanche. C'est magnifique. C'est ça que l'église sont venus. L'Église qui fait bien de venir ensemble et les contacts, d'être ensemble, et que vraiment notre engagement pour servir le Seigneur, fidèle au Seigneur, n'est pas si important. Et peut-être bien que notre persécution nous fera du bien. Peut-être bien que notre persécution nous évitera la nécessité de construire l'Église plus grande. Mais pourquoi c'est notre persécution? Moi, je fais l'Église. Bien, soyons que ces chrétiens nous aiment, qui sont fidèles, et informons-nous de ces choses-là, et prions pour eux. Ça, ça se répète partout, partout. Plus que la moitié des chrétiens dans le monde vivent dans le pays où ils sont très loin. Seigneur, merci que la victoire finale est assurée. Merci que personne ne va pouvoir nous accuser à l'avenir. Merci que notre ennemi, le diable, son défait, c'est déjà venu, Seigneur. C'est juste sans marge qui ne reste pas comme ça. Juste la peine, il va arriver pour nous. Merci que nous sommes plus que vaincus. Et si on a tendance, Seigneur, à encore passer par des moments difficiles, des moments de grâce, pour être fou. Maintenant que nous sommes dans le pays, ici au Québec, et dans notre ville, et dans notre pays, Seigneur, aide-nous à être fidèles à ton service. Nous prions que l'école dimanche soit protégée de refuser. Nous prions aussi que, pour le cœur de chacun et pour les autres, le ministère de l'Assemblée. Que ton peuple s'empresse pour te servir. Que tu ouvres la vie, pour le savoir. Parle-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs. Donne-nous des bonnes nouvelles.